Jean Lucas, Synergie.
Synergie. Bonsoir, je pourrais, c'est sûr, essayer de vous faire rire ou sourire avec les soucis de Jean-Luc Lagardère, ex-heureux propriétaire d'une belle grosse bécane industrielle à 1 franc l'unité. Je pourrais vous faire marrer peut-être avec les fluctuations de l'impôt sur la fortune et sur les trésors d'imagination de nos élus. Je pourrais vous parler de la pluie et du beau temps, mais je sens bien que tout ça est assez loin de vos préoccupations, comme ça l'était des miennes d'ailleurs hier soir à la même heure. Sauf que les bonbonnes de gaz, quand elles explosent dans le métro, ce qui n'est pas du tout leur place, ces bonbonnes font des morts, des blessés et nous foutent la trouille. Déjà s'entasser à 6h du soir dans un wagon du RER, ce n'est pas l'idée qu'on se fait du bonheur. Et alors s'il y a le sang et le carnage au bout du voyage, ça fait très cher payer la journée passée au bureau. Donc nous nous abstiendrons de faire le clown. Je voudrais tout de même dire que dans les formes dégueulasses d'assassinat, l'attentat en milieu urbain atteint un sommet. Je pense à ceux et celles qui perdent une jambe ou un bras ou se retrouvent défigurés parce que des intégristes débiles se bouffent le nez à Alger et s'entretuent comme des chacals, sans commisération, sans humanité, sans conscience. Je pense aussi à ceux qui ont des enfants ou des proches qui prennent le métro et qui s'angoissent comme des fous lorsqu'ils entendent les nouvelles à la radio. C'est tellement injuste, tellement lâche, on vous l'a déjà dit, et tellement nul que ça doit tout de même faire jouir quelques malades, quelques esprits très malsains. On va donc revoir des policiers, des gendarmes, des militaires à tous les coins de rue, des fusils et des gilets pare-balles. Et surtout, on va voir revenir la suspicion, la vilaine suspicion. Et ça, c'est vraiment la réussite du terrorisme. Comme dit l'autre, ça fait gerber. Ce soir, nous recevons Francis Cabrel, Roger Jacobacci et Joël Robuchon.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Ce monde est sérieux. J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Que ce monde est sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros.
Otras vidas y otros toros. Mataremos otros.
Venga, venga, baila. Y mataré los otros.
Francis Cabrel, c'est une chanson spéciale pour notre assistante, c'est une fan de Corrida. J'ai un très gros et un très beau livre sous les yeux. Alors, La Chose, j'appelle ça La Chose parce qu'il y a plein de guitares dedans. Ça a été produit par Chandelle Productions. C'est écrit en tout petit. Je ne sais pas d'ailleurs comment on le trouve dans toutes les bonnes librairies, mais Francis Cabrel, ça me rappelle quelque chose, Chandelle Productions.
Chandelle Productions, oui, c'est la société qui produit aussi mes disques.
Hein. Voilà. Bon.
C'est bien ça, j'ai bien répondu.
Il a bien répondu. Je crois qu'il y a à l'intérieur à peu près tous les rêves de ceux qui aiment la guitare. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la guitare. Donc ça s'appelle Luthier et guitare dans France. Disons que ça vaut son pesant d'or parce qu'il y a plein d'informations, plein de choses qui sont vraiment intéressantes. Puis c'est beau en plus les guitares, il y a des magnifiques photos. Alors donc on a deux experts pour parler du livre. Il y a Francis Cabrel, je vous le présente pas. Puis il y a un autre invité. Alors c'est un monsieur dont vous ignorez peut-être le nom si vous jouez pas de la guitare par exemple. C'est Roger Jacobacci, c'est un nom qui vient de Sicile. Hein, c'est le grand-père qui était sicilien.
Et ouais. Mon père aussi.
Votre père aussi, il s'appelait Vincent, votre père.
Il s'appelait Vincent, oui.
Ouais. Il avait fait plein d'enfants d'ailleurs.
Oui, il a fait 12. Enfin, c'est ma mère qui les a fait quand même.
Oui, d'accord, enfin, avec un petit peu d'aide de papa. Oui. Et puis bah, lui, il est parti de Sicile, ça devait être dans les années 20. Non,
dans les années 20, exactement.
Mm-hmm. Ouais. Il se passait des choses à l'époque.
Il se passait des choses qu'il fallait pas. Il fréquentait des gens qu'il fallait pas fréquenter peut-être mm-hmm. à l'époque. Et puis,
des fachos, c'est ça vous...
Absolument. Et, mm-hmm. Il les aimait pas, quoi. Mmh. Et puis, avec une bande de copains qui étaient un peu avocats, et puis à un moment donné, ils se sont dit, bon, bah, faut partir. Et puis il est parti, puis il est venu en France.
Ils sont venus en France, terre d'accueil, tout ça.
Et à l'époque, c'était relativement bien vu. Il y avait des Italiens qui venaient pour être maçons, et puis lui, il est venu pour être luthier.
Ouais, c'est un beau métier, luthier. Hein. Mais c'est un métier que le grand-père, lui, c'était pas son métier au départ d'être luthier.
À d'origine, c'était pas son métier. Il a commencé, c'est drôle, parce que mon grand-père, il a commencé à faire de la lutherie avec mon père. C'est curieux. Mmh. Et mon père, il faut dire un truc, il était installé en Sicile, il avait 17 ans déjà. Il était installé, il faisait des mandolines. Mandolines et puis guitare de dame, de la petite guitare. Puis mon grand-père, lui, il était tailleur de vis, d'engrenage pour les moulins, les trucs dans des bois durs. Mmh. Puis il est venu travailler avec mon père comme ça.
Mais par goût des instruments ou pour gagner des sous
Mais parce que disons qu'en Sicile, les gosses en Sicile, le rêve d'un gosse c'était d'être un jour fabricant de mandoline. Mm-hmm. C'est drôle parce que c'est resté, bon maintenant moins parce que l'évolution, la mandoline ça peut tomber. Et puis disons que les Siciliens ou les Italiens se sont fait un peu bouffer par les japonais en termes de guitare, des trucs comme ça, on retrouve plus beaucoup de Mais certainement qu'il y a de bons luthiers en Italie. Hein.
Mmh. Ah oui, ça j'en doute pas. Donc Vincent, il est arrivé en France, tout ça, et puis les affaires ont plutôt bien marché, parce que je crois qu'il y avait 3 magasins de luth.
Ah oui, bah, les affaires marchaient bien dans le sens que... Les affaires marchaient bien, c'est les recettes qui ne marchaient pas bien. Là,
Pourquoi il est donné, sa guitare ou...
Non, pas parce qu'il est donné, parce qu'il ne savait pas compter. Mais quand il avait 3 ateliers, il avait 2 ateliers à Paris, un rue Milmontant, il en avait un rue Duris, et puis un à Bruxelles. Mais... À chaque fois qu'il était dans un endroit, ça se passait mal dans l'autre.
Mmh, ouais, le commerce, c'est... Et c'est parfois difficile.
Alors, comme en plus, à l'époque, c'était dur de parler français quand même pour lui. Mmh. Hein, il baragouinait quand même.
Mais il a fait de vous, en tout cas, il a fait de 2 de ses fils, des luthiers.
Deux, parce qu'on a commencé avec des coupiers derrière quand même, parce que sur 10 frères et sœurs, par exemple, j'ai des frères qui avaient essayé de travailler avec lui. Puis c'était infernal, paraît-il. Mmh. Moi, j'étais élevé à la campagne pendant la guerre à cause de l'Exode. Il y a mon certificat d'études, il est venu me chercher. Il m'a dit, bah, tout le monde a essayé, bah, tu vas essayer aussi.
Et bah, vous avez plutôt bien réussi.
Et puis, c'est vrai que j'étais forcé, parce qu'au départ, je n'avais pas du tout envie. Je voyais des guitares, des mandolines, des banjos, des trucs comme ça.
Je crois que vous avez fait d'ailleurs votre dernier banjo pour quelqu'un des compagnons de la chanson.
Absolument, un banjo-guitare pour un des compagnons de la chanson. Mm-hmm. C'est peut-être Robert, je crois, Jean-Louis Robert.
Ouais. Et puis, vous avez pris goût au métier.
Ben après, d'ailleurs, ce qui fait prendre goût au métier, c'est parce que, bon, au départ, on essaye de gagner sa vie, on a du mal à gagner, mais ce qui encourage, c'est quand on commence à connaître des artistes, et puis quand on commence à être connu, par exemple, c'est certain que c'est stimulant.
Mmh. Mais vous êtes musicien, vous avez. Jouez de la guitare?
Non, je joue de l'accordéon. J'ai joué de l'accordéon.
Moi, je trouve ça complexe, je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure. Je me dis, voilà un monsieur qui fait des guitares, puis plutôt des belles guitares, qui sont connues par des gens qui aiment, des gens musiciens, oui. Oui, des professionnels. Et puis vous ne jouez pas de la guitare.
Mais c'est maintenant que j'aurais aimé, après avoir été connu, dans le sens que quand on n'était pas connu, j'en voyais tellement que j'ai dit non, je vais apprendre l'accordéon. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, et puis après j'aurais dit tiens, j'aurais bien appris, mais après j'étais trop vieux.
Mmh. Est-ce qu'on sait ce qu'on fait quand on fabrique une guitare? Vous allez me dire oui, bien sûr, mais est-ce qu'on sait quel genre de guitare ça va être, quel son ça va donner, et est-ce qu'on se trompe de temps en temps?
Dans la guitare moderne, on se trompe moins que dans la guitare classique. Dans la guitare classique, on va faire pour dire 5 guitares classiques, elles vont sonner différemment, par exemple. Mais dans la guitare plus moderne, disons dans les guitares électriques ou électroacoustiques, c'est toujours pareil, comme à peu près. On sait ce qu'on va faire, bien sûr que c'est fabriqué pareil, comme il faut le faire avec goût.
Par exemple, moi je vais vous voir, je dis voilà, je joue de la guitare le samedi soir dans mon village, et puis j'aime bien Jimi Hendrix, Eric Clapton, fabriquez-moi une guitare qui... sonne comme...
Qui sonne, il faut avoir les doigts d'Eric Clapton ou de... Systématiquement, je le dirais toujours, ça. Mm-hmm. Mais je pourrais faire une guitare avec les mêmes ingrédients qu'une guitare Fender et puis qui aura le son d'une Eric Clapton, si elle est jouée par Eric Clapton.
Mm-hmm. Vous me parliez tout à l'heure d'un client, manifestement jeune client, qui était venu vous voir en vous disant, ben voilà, moi je voudrais jouer comme Wes Montgomery, donc arrangez-moi ça. Et vous lui avez dit quoi alors?
Je lui ai dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit comme ça, faisons une expérience dans un micro, par exemple, sans rien changer, faisons chanter au clair de la lune à Dalida. Mm-hmm. On ne change pas les réglages, rien du tout, faisons chanter au clair de la lune à Charles Aznavour. Ça n'a pas le même son. Hein.
Mm-hmm. Non.
Et pourtant, là, c'est le même matériel. Mm-hmm. Parce que chacun, si les chanteurs ont chacun leur son dans la voix, il y a les joueurs qui ont chacun leur son dans les doigts.
Mmh. Francis Cabrel, vous jouez d'autres instruments que de la guitare, vous?
Oh non, un petit peu de piano à peine, pour vérifier de temps en temps, si ma chanson est à peu près bonne.
Et qu'est-ce qu'il y a de si unique alors dans la guitare pour quelqu'un qui écrit de la musique, qui compose des chansons et qui chante? Parce qu'il y a, on fabrique pas ce genre de livre si on n'est pas un peu fondu de...
Non, je suis complètement fondu de guitare, oui, c'est sûr que ça colle au corps, ça vibre en même temps que soi-même.
Mais vous avez des petites chouchoutes, vous en avez combien de guitares?
J'en ai une quarantaine et des très bonnes, mettons 10, quoi, parce que les très bonnes guitares sont rares. Donc, soit c'est des guitares de série américaine, mais... que certains professionnels m'ont choisi, par exemple, ou m'ont aidé à choisir, ou des guitares de luthiers français qui ont été très, faites avec amour et passion, et à exemplaire unique, par exemple. J'ai à peu près une dizaine de guitares comme ça. Mais c'est vrai que la guitare, ça fait partie de soi, à un moment donné.
On vous en offre une à Noël tous les ans ou...
Malheureusement pas, non. Non, je me les offre, je suis assez grand maintenant, je fais les magasins, puis je...
Mais qu'est-ce que vous vous dites, par exemple? Vous vous dites, j'ai 10 guitares que je préfère, enfin, que je considère comme des bijoux, enfin, des choses très rares. Et elles ont quelle qualité par rapport à d'autres, ou elles sont associées à quelles idées par rapport à d'autres?
Elles ont chacune de leur son, leur caractère, leur longueur de son aussi, suivant qu'on veut jouer ou avec les doigts ou avec le médiator par exemple. Donc il y a du timbre, il y a dans tout le spectre sonore, aigu, grave, bon, certaines qui sont équilibrées donc de façon personnelle. Puis donc, il y a l'électrique ou pas, l'électroacoustique, enfin, il y a plein de combinaisons possibles.
Il y en a qui vous résistent. Par exemple, vous dites, tiens, cette guitare, elle est somptueuse, elle est belle, elle est... puis avec moi, ça colle pas, ou non, ça arrive jamais?
Oh si, ça arrive. Oui, non, parce qu'il y a des guitares, il faut être très jazzman, par exemple. On parlait de Wes Montgomery, bon, moi j'ai beau prendre la même guitare que lui, et à part que l'objet je le trouve magnifique, bon, je ne sors rien avec, par exemple. Je suis plutôt dans le genre folk, guitare... Donc en bois, acoustique, normal, traditionnel, c'est vrai que je peux passer des heures dessus.
Et ça a toujours été votre instrument, c'est-à-dire tout petit déjà,
Francis Tout petit Cabrel, déjà, on m'a offert une guitare espagnole qu'un oncle voyageur avait ramenée comme ça de Séville ou de je ne sais où. Bon, j'ai commencé avec ça, le manche était impossible à jouer, puis au fur et à mesure j'ai appris à avoir du goût dessus, quoi, avoir des préférences, des épaisseurs, des sonorités, ça ne vient pas tout de suite. Au fil des années, voilà, donc grâce à certains luthiers donc, qui sont dans ce bouquin, j'ai...
Vous allez voir de temps en temps les luthiers au travail, enfin, vous avez déjà commandé par exemple des guitares, vous
Oui, bien sûr, oui, mais je vais des fois aller voir, parce qu'il y a des réparations à faire sur des guitares, des petites choses, un vernis qui craque ici, ou une barrette à changer, ou à savoir quoi.
Et qu'est-ce qu'on dit, par exemple, à un luthier, on lui dit « Bonjour monsieur, je voudrais une guitare », ça doit être dur à expliquer ce qu'on cherche dans une guitare.
Oui, on dit « Je voudrais une guitare », alors pour faire, d'abord il faut dire à quel genre, quel style on veut tirer de cette guitare-là, à quelle occasion on veut s'en servir. Et puis après, donc, avec le luthier, comme disait Roger, on essaie de s'approcher de cet idéal qu'on a. On a une situation comme un rêve, quoi. On se voit en train de chanter tel titre avec cette fameuse guitare qui n'existe toujours pas. Et donc on s'approche en choisissant des bois plutôt que d'autres parce qu'ils résonnent plus ou moins ou de façon plus brillante ou pas.
Par exemple, quelles essences sont les plus... J'aurais me tourner vers le luthier là quand même.
Il faudrait mieux demander à Roger, mais bon, le palissandre par exemple a une très bonne réputation.
Les essences, disons que le palissandre pour le corps de la guitare et puis la table en épicéa, c'est... On a fait toute la guitare. Après, tous les bois peuvent être employés.
Oui, est-ce qu'on vous allez acheter du bois
Mais malheureusement, ce ne sont que des bois d'importation qui valent horriblement cher. Et si le bois n'est pas le plus important dans une guitare, ou c'est la main-d'œuvre qui est le plus important, on est forcé d'acheter du bois par certaines quantités. Ça fait quand même une grosse sortie d'argent.
C'est vrai qu'on coupe le bois à certaines... À certaines saisons, enfin ça j'en suis à peu près sûr, mais à certains moments...
Non, on est forcé à certaines saisons, pour les tables, les IPCA par exemple, il y a plusieurs formes de coupage de bois, dans le sens que ça peut être coupé, comment expliquerais-je, sur quartier, sur certains bois pour faire des fonds de caisses sur dos, ou des trucs comme ça, mais enfin, le résultat, il y a toujours un peu le mystère quand même qui existe, alors... Tout est possible.
Vous avez fait combien de guitares dans votre vie, vous savez ou pas? Il n'a pas compté.
Non, parce qu'il fut une époque où on en faisait beaucoup quand on essayait de gagner sa croûte, quand on travaillait pour une maison, par exemple. Et puis après, disons qu'avec mon frère, les derniers temps, on en faisait quoi, 50, 60 par an, à deux. Et après, tout seul, j'en faisais pas 20, 24.
Il y en a qui valent très cher, des guitares, je suppose.
Bon, chez nous, non, parce qu'il faut quand même rester un peu modeste, dans le sens, s'il y a des guitares américaines qui valent 100 000 francs, disons que peut-être les plus belles de celles que j'ai fabriquées valent peut-être 20 000, 25 000 francs actuellement en guitare de collection.
Et oui, vous savez ce qu'elles deviennent, vos guitares
Ben, j'en connais quelques-uns qui ne veulent pas s'en séparer, j'en connais... Il y a certains modèles qu'on n'arrive pas à en trouver dans le commerce d'occasion.
Ça, c'est flatteur pour le pour celui qui les a faites alors.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait partie des satisfactions du métier quand même, n'importe comment. C'est que quand on achète du bois qui est brut, on dit, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'il est sec ? Est-ce qu'il n'est pas sec ? Il y a toujours le petit mystère. Puis qu'un jour, on voit quelqu'un comme M. Francis Cabrel ou Sacha Distel ou Salvador jouer avec ça, on dit...
Ah, c'est des bons guitaristes, oui.
On a l'impression d'avoir accouché de quelque chose.
Mm-hmm. Est-ce comme les violons, est-ce que ça prend de la valeur avec le temps ?
En guitare, ça prend de la valeur dans le sens où il y a la conservation, évidemment, comme le violon. Et puis, la renommée fait aussi qu'une guitare va coûter cher après X temps. Mais je suis pas sûr qu'une guitare se conserve éternellement, surtout certaines guitares. Il y a des théories, chacun sa propre théorie. Par exemple, en guitare classique, par exemple, j'ai discuté avec certains qui me disent qu'une guitare arrive dans le temps à se casser, parce qu'une table vibre tellement, elle fait ressort, une table de guitare, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça fait comme un ressort qui travaillerait toujours. Il y a un moment donné où il n'est plus bon. Et sur des guitares classiques, ça se trouve souvent. Ce qu'on ne trouve pas sur des guitares à chevalet portant. Tu vois ce que je veux dire, toutes les guitares à cordes qui arrachent le chevalet.
Mm-hmm. Et il parle à Francis Cabrel, il ne parle pas à moi parce que.
Spécialiste, c'est le plus
clair. Excusez-moi, j'essaye d'expliquer ce que veut dire sur une
guitare. C'est vrai qu'un jour ou l'autre, elles explosent.
Non, elles n'explosent pas, c'est que les fibres se cassent et les vibrations ont changé, donc le son a changé. Elles sonnent toujours, mais le son devient plus mat, devient moins clair. Parce qu'il y a l'effet de ressort qui n'existe plus, qui se perd.
D'accord, elle meurt petit à petit.
Elle meurt tout doucement. Attention.
C'est triste, là.
Oui, mais enfin...
Ah ouais, alors là, je suis déçu.
Un coup de blouse, Francis Cabrel, il rentre à la maison, il va les regarder.
Je vais les brûler.
Mais je pense que lui, ses enfants, ses arrière-petits-enfants verront quand même. Oui. Et puis peut-être aussi une chose, c'est-à-dire que la notion aussi de la sonorité d'un instrument a beaucoup évolué, dans le sens que ce que l'on entendait, il y a 60, 70 ans, par exemple, sur une corde classique, par exemple, c'était des cordes qui étaient faites en boyau de mouton. Après, on a inventé le nylon qui sonne déjà 10 fois plus. Je crois qu'il y a aussi de l'évolution dans l'accessoire qui fait aussi que c'est mieux.
Alors, Paris, j'ai appris plein de choses dans ce livre-là. Paris, ça a été la capitale des luthiers, enfin, jusqu'en 1850 à peu près.
Absolument.
N'en déplaise aux Siciliens.
La capitale, pas forcément. Parce que
les instrumentistes, on va dire.
Les instrumentistes, oui, c'est vrai, les instrumentistes. Mais en fabrication de guitare, bon, il y en avait beaucoup en province, Mirecourt et tout ça. Mais enfin, disons que Paris, début du siècle, enfin, après les années 20, c'était qu'il y avait quoi, une dizaine d'Italiens à Paris, c'était tout. En France, il n'y en avait plus après.
Et aujourd'hui, c'est florissant.
Il y en a partout.
Ouais.
Il y en a partout.
Et alors, je me demandais, moi, si c'était lié au fait qu'il y a de plus en plus de bons guitaristes, donc de gens qui sont de plus en plus exigeants et qui poussent le produit à être de haute qualité.
Ben peut-être. Puis attention, il y a aussi des luthiers qui sont novateurs, qui essayent de faire des choses hors du commun, quand même.
Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont emmerdants, les artistes, quand ils viennent, enfin, un peu connus, quand ils viennent chercher leur guitare?
Ah, moi, j'en ai pas connu un seul.
Vous me regardez dans les yeux, là.
Même pas un.
Non, pas un seul.
Non, ils sont méticuleux, ils sont pointus.
Ils sont méticuleux, mais enfin, n'importe comment, dès qu'on se comprend. Puis je crois aussi une chose, c'est-à-dire que dès l'instant où l'artiste a choisi un luthier valable, disons, on se fait confiance.
Francis Cabrel, c'est qui votre guitariste préféré, ou celui qui vraiment vous impressionne beaucoup et que vous aimeriez être la guitare de qui, par exemple?
Ben moi, j'aimerais être guitariste de Bob Dylan, mais ça n'a pas un rapport avec le jeu de guitare proprement dit. C'est que j'adore ce type, et l'accompagner, par exemple, ça n'arrivera jamais, mais ça, c'est le rêve. Sinon, j'ai grandi avec Jimi Hendrix. Bon, après, j'ai connu des gens comme Wes Montgomery, parce que des musiciens m'avaient initié au jazz. Mais c'était beaucoup plus tard, au départ, c'est Hendrix.
Et la différence, parce que vous êtes guitariste, les bons guitaristes.
D'accompagnement, ouais.
Mais vous comprenez là, le génie de ces mains-là, ou c'est un mystère total?
Ah non,
comme
c'est,
la guitare,
c'est un mystère total. C'est un mystère total. Je sais pas comment les gens sont allés aussi loin dans une espèce de folie, de création, de... Ils ont poussé les limites du blues, de toutes les musiques, en fait. Enfin, Hendrix, notamment, a carrément fait avancer la guitare de, je sais pas, de 50 ans, d'un bond de 50 ans en avant. C'est assez,
et ça s'est traduit dans ce qu'est une guitare, dans la fabrication d'une guitare.
Pardon, non, je crois pas.
Non.
Non, je crois qu'il a pris une guitare de série, c'est justement là le problème.
Il aurait pris une casserole, par exemple, Jimi Hendrix, ça pourrait être très bizarre.
Si on l'avait connu avant, on l'aurait peut-être entendu jouer sur des demi-casseroles, ça aurait été, je pense, quand même Jimi Hendrix. Mais c'est vrai qu'il a
d'autant
pris une strato.
D'autant plus qu'il était gauché, puis qu'il jouait avec des guitares de droitier.
Oui, en plus.
Ouais, pour compliquer un peu.
Et puis, non, mais il ne changeait pas, il n'a jamais changé. Il a pu prendre une guitare de gaucher, on aurait pu lui fabriquer une guitare de gaucher, il n'en voulait pas.
C'est un homme compliqué, Jimi Hendrix.
C'est dommage qu'il n'ait pas joué sur des guitares Jacovacci, moi je trouve.
Il y a Frank Zappa qui a joué dessus quand même.
Vos titres de gloire de luthier, c'est qui alors? Frank Zappa, Francis Cabrel?
Non, Francis Cabrel, non, j'en ai pas, parce que je pense que j'ai... n'en déplaise à Francis ou à d'autres, par exemple, je suis copain avec Henri Salvador, je suis copain avec Distel... moi, la satisfaction du client me suffisait.
Et Francis Cabrel, pourquoi vous avez... Parce que vous êtes beaucoup impliqué, j'ai l'impression, dans ce livre. C'était pour rendre hommage à la guitare, c'est pour les gens qui jouent de la guitare, qui pourront trouver un peu partout...
Pour luthier, quand même. Il les aime de trop, les luthiers.
J'aime beaucoup les guitares, donc je voulais faire plein de choses. Rendre hommage à Roger Jacovacci, à toute sa famille, son action... au fait qu'il soit le doyen d'une profession extrêmement, en ce moment, riche, jeune, florissante, pleine d'idées. Voilà, c'était la conjonction de toutes ces choses.
On a presque réussi à ne pas parler de vous du tout.
Tant mieux.
Pendant cette interview, parce qu'il paraît que vous en avez marre qu'on parle de vous.
Non, mais je dis avec plaisir que j'ai pris justement autant de plaisir à faire, ou à, du moins à guider les gens qui ont fait ce livre pour moi, qu'à faire un disque de 10 chansons nouvelles. Ça a été... C'est une aventure de bien-être et de...
C'est curieux ce que vous dites, mais enfin c'est curieux, c'est sensé, et puis si vous le pensez, si vous le dites, mais je vous ai entendu dire récemment qu'on passait trop vos chansons à la radio.
J'ai dit ça, oui.
Ouais.
C'est un autre débat, c'est-à-dire que je m'occupe aussi de jeunes auteurs-compositeurs, dont des gens qui débutent complètement, donc de parfaits anonymes pour l'instant, et je m'aperçois que lorsqu'on porte... ces disques dans les radios, on reçoit à peu près toujours le même jugement. Et pour finir, la chanson ne passe pas. Et donc ces fameux quotas, on s'était battu pour qu'il y ait des quotas, profitent donc toujours eux-mêmes, dont je fais partie.
Ça, vous allez devenir riche, vous.
C'est vrai que je regrette que la loi ait été, disons, déviée en faveur de toujours les mêmes déjà installés. Moi, mes chansons à la radio, d'abord, elles ne sont pas écrites pour passer autant à la radio. Donc elles risquent de se faner ou de fatiguer tout le monde à force d'être surexposées, je dirais. Et il faudrait passer plus de jeunes à découvrir, qui sont très très bons. C'est comme pour les luthiers, on s'aperçoit qu'il y a des luthiers formidables que personne ne connaissait. Et en chanson, il y a des types qui attendent d'être découverts, qui valent vraiment le coup.
Mais pour un créateur, c'est un petit peu, j'allais dire, une impasse, non? Quand on se dit, je ne veux pas qu'on entende autant mes chansons.
Oui,
je ne veux pas.
Il ne se rend pas compte qu'on ne se lasse pas aussi.
C'est pareil, mais ça, on ne va pas lui dire.
Non, mais c'est vrai, mais c'est pareil. Je dis quand même toujours, il a une certaine timidité, puis il a envie d'aider les autres.
Il a surtout mal à la gorge, là, Francis Cabrel.
Oui, particulièrement.
vous aimez les objets, en général, à part cette passion pour
les objets, oui.
Non, je vous dis ça parce que j'ai lu que vous aviez une vieille 203 Peugeot.
Oui, exact.
Alors je me suis dit, ça doit être un homme qui aime les objets, et puis pas les objets les plus moches en plus. Je vous remercie tous les deux. Ça s'appelle donc Luthier et guitare dans France. Donc, j'ai déjà oublié le nom de la maison d'édition.
C'est Chandelle, Chandelle.
Voilà, et vous trouverez ça donc dans... Et si vous connaissez autour de vous des gens qui aiment la guitare, qu'ils soient débutants ou pas, je crois que ça leur fera infiniment plaisir.